Oui, donc voilà, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi, le 11 janvier 2012, et vous êtes en direct sur votre avec votre émission, du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc il faut souligner aussi que l'émission de ce matin marque le début d'un nouveau départ pour l'année 2012. Nous avons tous enterré l'année 2012, principalement avec le départ de Jean Charest, symbole d'un orgueil hors commun qui a terrorisé le Québec et tenu en otage la démocratie jusqu'à la toute dernière minute. Et nous avons vu aussi comment l'entourage de Jean Charest était désespéré à venir en aide à leur chef et comment aussi la plupart de son entourage se sont détachés de lui en silence. Sinon, avec des démissions en signe de désespoir. Et nous avons aussi confirmé rapidement que trop d'années au pouvoir peut être dégradant aux politiques avant de l'être pour la société elle-même. Bref, même si le Québec a toujours les pieds dans la boue, il reste que cette phase vibrante d'incertitude menaçante des droits et des libertés fondamentales des citoyens est tout simplement disparue. Et le discours politique est devenu digne d'une société comme la nôtre. Et justement, j'étais surpris de lire dans les premiers pas de ce nouvel an un chroniqueur de la presse qui a suivi la caravane de Jean Charest pendant les élections et qui a tenté vainement de nous décrire l'ex-premier ministre dans un habit de moine sans bien sûr parvenir à cette fin. Disons par exemple que le bonhomme était super gentil, fin, à l'écoute, patient, intelligent. Il n'y a pas mieux que lui pour gouverner le Québec, bref, plein de niaiseries qui s'entrechoquaient dans tous les sens. Ce chroniqueur avait l'étoffe de vouloir défendre l'ex-premier ministre à tout prix, défendre l'indéfendable. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Jean Charest a reçu un coup de balai de la scène politique. Et le plus surprenant que le même chroniqueur vient d'écrire cette semaine, mercredi le 4 janvier, un article intitulé « Un dîner avec Philippe Couillard » et je cite le début de l'article. Alors, les politiciens sont des bibites. Quelques mois après, il va continuer et je cite « Ça donne souvent un discours plein de formules creuses, tu les interviews et tu relis ton calepin de notes plus tard et tu dis « Mon Dieu, comment se fait-il que je ne me sois pas endormi pendant qu'il parlait ?» Et il nous dit clairement et sans gêne, je pense à Jean Charest bien sûr. Et pourtant l'auteur de ces mots disait complètement le contraire avant le départ de Jean Charest. Et je mettrai ma main dans le feu que ce type-là ne dira jamais un mot de tout ça, c'est l'ex-premier ministre est encore au poste. Alors vous comprenez, chères auditrices, chers auditeurs, que ces gens-là, soi-disant qui véhiculent des idées, des pensées, qui sont supposés d'être des projecteurs, des guides pour l'ensemble de la population, deviennent, en leur découvrant, des plumes sans poids, projetées comme une ordure dans toutes les directions possibles des personnes qui ne reflètent rien de vrai, sinon le désordre des mots. Vous pouvez voir d'ailleurs dans sa deuxième entrevue avec M. Pierre Moreau, candidat à la direction du Parti libéral, une entrevue publiée ce jeudi. Vous allez voir comment il va disqualifier ce candidat qui, au long de l'entrevue, n'a fait que corriger les conneries de ce chroniqueur. Exemple. Notre chroniqueur lui demande pourquoi il veut être Premier ministre du Québec. Alors M. Moreau lui répond « Je ne veux pas être Premier ministre, je veux être chef du Parti libéral ». C'est deux choses complètement différentes, mon cher monsieur. Il a complètement raison. M. Moreau lui ajoute un peu plus loin dans ce second article « Si on se lance dans une course à la direction du Parti libéral du Québec en disant « Moi, mon objectif c'est d'être Premier ministre du Québec », on manque la première marche de l'escalier ». Et dans l'escalier, manquer une marche, c'est dangereux. Alors c'est fin de citation. Et je dis aussi, vers la fin de l'entrevue, le chroniqueur semble avoir compris le double message de M. Pierre Moreau, député de Châteauguay. Le premier, c'est de lui rappeler la démarche journalistique, même si celle-ci est primaire, ne pas manquer de marcher sur les escaliers. Et vous risquez de se casser la gueule tout simplement. Et la seconde, de ne pas juger le potentiel du politique à partir des mots, comme ils le font la plupart des journalistes, mais plutôt à partir de l'œuvre et de la pratique qu'on peut juger quelqu'un. Bref, je n'ai pas, bien sûr, assisté à cette entrevue, mais je peux facilement imaginer, chers auditeurs, chères auditrices, ce type de chroniqueur un peu trop gonflé dans le vide qui l'entoure, d'être irrité, cette fois, devant quelqu'un qui l'a remis à sa place, et nous comprenons aussi Pourquoi, si on lit la fin de cet article, un dîner avec M. Pierre Moreau, le chroniqueur va conclure parlant toujours de M. Moreau, on dirait un extrait d'un manuel scolaire aux élèves du premier cycle du secondaire. Voilà, donc nous sommes devant un renvoi d'ascenseur mal endroit et un peu, très peu constructif. Et si vous avez lu le journal de la presse de ce matin, le chroniqueur reprend sa dernière rencontre avec un dîner avec Raymond Bachon, l'ex-ministre des Finances, et il se casse la gueule pour la troisième fois. Mais au moins, on comprend que M. Bachon n'est pas fait pour gouverner, ça c'est sûr. Par contre, dans cet entretien, M. Bachon a eu l'audace de rappeler à notre chroniqueur quelque chose d'essentiel. Et je cite, « Il y a des bandits partout », puis il précise, « dans la police, dans les partis politiques et même chez les journalistes ». Fin de citation. Bravo M. Bachon, vous avez au moins dit une chose qui est totalement vraie. Voilà donc, heureusement, ce n'est pas tous nos journalistes qui sont des opportunistes, agaçants si... Sinon, nous aurons un sérieux problème de société. Maintenant, revenons à nos moutons, cette chronique, la nôtre, dénoncer les abus de pouvoir, les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Donc, nous reconfirmons preuve à l'appui que l'abus de pouvoir et les injustices sont devenus un phénomène du quotidien ici au Québec, ce phénomène hautement dégradant dans notre société existe bel et bien, et encore mieux le dire, il est en expansion. Le système judiciaire, en définitive, est dépassé par l'ampleur de la catastrophe, de ce phénomène, bien sûr, qui frappe surtout, madame et monsieur, tout le monde. Voilà pourquoi l'insatisfaction des citoyens est vertie et à son plus haut niveau. Maintenant, est-ce qu'on peut changer cette situation? La réponse est toujours oui, à condition que vous, chers citoyens, vous le voulez. Le reste, il viendra tout seul. Nous vivons dans une société dite par défaut exemplaire, et ça nous revient à nous, les citoyens, de redresser cette déformation. N'attendez pas d'être victime, chères auditrices, chers auditeurs, de l'abus de l'autorité pour bouger, si vous voulez. Donc le phénomène de l'abus de l'autorité est excessivement dangereux et chacun de nous, chers citoyens, est pleinement responsable. Et justement, la semaine passée, je parlais à une journaliste du journal La Revue, un journal hebdomadaire qui dessert les villes de Terrebonne et de Mascouche. Il s'agit de Mme Véronique Talbot. Et elle voulait compléter quelques informations à propos d'une victime d'abus de pouvoir dans sa région. Et elle a profité pour me demander, M. Zitouni, vous avez toute une rubrique hebdomadaire autour de l'abus du pouvoir et les injustices. Ça se peut-tu que ça existe une telle émission ici au Québec? Alors je lui ai répondu tout simplement, vous avez un cas sur votre bureau présentement et nous avons plusieurs sur le nôtre. Si vous publiez l'article sur lequel vous travaillez présentement, il y aura d'autres victimes qui vont suivre le pas. Alors elle a compris, j'imagine, que c'était des sérieux. L'abus de pouvoir et les injustices au Québec est malheureusement est une réalité amère que la majorité des politiciens ne veulent pas entendre, une tache noire qui ne cesse de grandir et le fait de l'ignorer va forcément la grandir davantage. Ce matin, nous allons, comme d'habitude, avec un nouveau cas, appelez-le ce que vous voulez, incompétence, abus de pouvoir ou autre, mais le plus important que la victime est un citoyen et l'agresseur n'est pas d'autre que l'autorité. Alors je vous invite de rester à l'écoute pour entendre le témoignage de la première victime de ce nouveau départ. La victime a eu le courage de vouloir dénoncer publiquement l'abus de l'autorité ici au Québec. Je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance de nos institutions judiciaires afin de prévenir les abus de pouvoir. La victime de ce matin est un inspecteur à Hydro-Québec, âgé de 51 ans. Une personne posée, calme, sérieux, aucun problème avec la justice, un citoyen modèle qui n'a jamais pensé d'être un jour victime de la brutalité policière. Notre équipe l'a rencontré cette semaine après notre thème musical. Je vous invite fortement d'écouter son témoignage et vous juger vous-même la gravité de la situation. Demeurez à l'écoute.
Une émission émission formidable sur les problèmes de société.
C'est fini. Attends juste, on va reprendre le thème musical. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, on a un petit problème technique avec notre... On n'arrive pas à retrouver la totalité de la musique, de notre thème musical de ce matin, mais on va quand même passer directement pour entendre le témoignage de la victime d'aujourd'hui, Monsieur Denis Cloutier. Alors, demeurez à l'écoute. Alors voilà, bonjour Monsieur Denis Cloutier, nous sommes chez vous aujourd'hui le 8, c'est ça le 8, donc mardi le 8 janvier 2013, et vous nous avez appelé. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous nous avez appelé?
Merci beaucoup d'abord de votre aide, merci beaucoup, vous êtes venu ici, vous êtes très généreux de votre temps, j'apprécie beaucoup. C'est... La raison, c'est que j'ai eu une attaque très, très, très sauvage.
Non, j'ai demandé qui vous a demandé de nous appeler.
Oui, c'était la CAVAC. C'est les gens de la médecine qui m'ont suggéré d'appeler la CAVAC.
Un service de santé qui vous a demandé d'appeler la CAVAC.
Ils m'ont suggéré que ce serait une bonne chose.
Et d'appeler le mouvement Action Justice pour revenir en aide.
Puis par la suite, la CAVAC m'ont dit que dans ce domaine-là, ce serait vraiment mieux que je fasse affaire avec le mouvement Action Justice.
Mouvement
Action Justice, qui était des spécialistes dans ce domaine-là.
Oui. Je veux savoir, M. Cloutier, vous êtes... quel âge avez-vous?
C'est 51 ans.
51 ans. Vous êtes... est-ce que vous travaillez?
Oui, je travaille depuis 25 ans.
Vous travaillez depuis 25 ans?
Pour Hydro-Québec. Ça fait 30 ans que je travaille.
Oui, vous travaillez pour Hydro-Québec depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis un dépanneur thermographe. C'est inspecteur en structure souterraine électrique, là.
OK, c'est inspecteur. Et est-ce que vous avez des problèmes avec les policiers?
Non, j'ai jamais eu de problème.
Jamais de problème dans toute votre vie?
Puis je paye mes taxes, je suis un citoyen modèle, pas de problème.
Pas de problème. Alors, si on va revenir juste à cette date-là, de la date de l'événement, on parle justement de la nuit des jeudis à vendredi. Le 4, hein, c'est ça, si on parle le 4 janvier,
oui,
ce janvier-là,
le
4 janvier 2013, c'est ça?
Exact.
Donc, vous rentrez de chez vous, vous travaillez à le quart de nuit?
Je travaille le quart de soir, donc de 15h30 à minuit.
OK.
Et donc, il y a un de mes confrères qui est venu me reconduire ici, je suis près du travail, là, ça a dû prendre environ 6 minutes.
6 minutes ici? Vous rentrez chez vous vers minuit 10. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé chez vous vers minuit 10?
Immédiatement, je suis monté en haut.
Je suis rentré chez vous.
Je suis allé porter mon pack-sac. Ouais. J'ai gardé mon manteau, mes bottes. Je suis sorti immédiatement à l'extérieur pour aller chercher mes ordures. Donc, ma poubelle et un sac de poubelle.
Vous êtes rentré chez vous. Donc, c'était le lendemain, c'était, je pense, c'est les ordures qui passent, c'est ça?
Le vendredi matin, pour nous, dans la rue, c'est les ordures.
Alors, vous êtes allé chercher
les choses derrière mon condo. Moi, je demeure au deuxième étage.
Oui, oui, oui.
Donc, je suis passé comme dans la ruelle pour aller sur mon terrain au deuxième étage. J'ai pris les choses, puis en descendant que l'incident est arrivé, en ouvrant la porte, en étant sur mon terrain, à l'intérieur des clôtures.
Oui, je comprends. Alors, M. Cloutier, vous descendez en bas pour aller chercher les poubelles. C'était vide, j'imagine. C'était vide ou... Vous avez sorti les poubelles, vous voulez dire?
Oui.
Ah, vous êtes allé
juste sortir. En bas, j'ai ouvert la porte pour pouvoir sortir dans la ruelle pour aller porter les poubelles à la rue.
Et à minuit 10, à minuit 4, qu'est-ce qui est arrivé au moment que vous êtes en train de sortir votre poubelle?
Ben, par surprise, parce que j'étais extrêmement surprise.
Surpris de voir quoi, monsieur?
De voir un policier armé avec un revolver pointant sur moi, là.
Oui.
J'avais peur, là. J'ai jamais vu ça.
Alors, vous savez pas, le policier venait d'où, là? D'un seul coup, là, un policier qui se pointe devant vous avec un pistolet en face.
J'ai pas vu d'où il venait, parce que la barrière était barrée. Et puis
qu'est-ce qu'il vous a dit, le policier, quand vous a pointé avec le pistolet, là?
Je crois que sa première phrase était « Les mains en l'air ». Très fort.
Oui. «
Les mains en l'air ».
Oui.
Puis, par la suite, j'ai lâché mes poubelles.
Oui.
J'ai levé les mains doucement. Oui. « À terre, à terre ». Okay. Je disais, je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait.
Vous ne comprenez pas pourquoi.
Non.
Vous ne comprenez pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez obéi à l'ordre du policier?
Alors, tout de suite, j'ai mis mon visage à terre et mes deux mains à terre. Je me suis mis à genoux.
Oui.
Sur la neige. Il y avait beaucoup de neige ici. Là.
Oui, d'accord.
Il y avait une épaisseur de neige.
Et après, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, il criait après moi, à terre, à terre. Puis là, il a appelé du renfort. Il y a plusieurs policiers qui sont venus.
Quelques secondes après, plusieurs policiers qui sont venus.
Immédiatement, il y a plus de renforts. Quand j'étais à terre.
Ça veut dire qu'il y avait des policiers qui étaient alentour, j'imagine.
Qui étaient alentour. Déjà présents. Il y avait un total de 6 voitures de police, donc il y était 12.
12 policiers.
Mais j'en ai vu au moins 10.
Alors là, vous êtes par terre. J'imagine qu'il a essayé de. Est-ce que vous avez expliqué qu'est-ce qui arrive ou est-ce que vous avez parlé? Rien.
Non. Pour lui, j'étais un criminel.
À 100% là.
100%.
Pas de doute. Ok, c'est bon. Alors, vous êtes par terre. Il a essayé de vous menotter ou.
Oui, son but, c'était de me menotter.
Okay.
Et il me demandait de mettre mes deux mains derrière. Par contre, j'avais beaucoup de misère à mettre mes mains derrière puisque j'avais discuté avec mes épaules et mes bras.
Ouais, vous aviez un problème avec les épaules. Vous réussissez pas à les mettre complètement
non.
En arrière, c'est
et,
ça?
Mon visage était déjà à terre, mais ouais. Ils ont pesé très, 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 très fort. Là.
Et vous avez pesé le visage dans la neige, à l'intérieur de la neige?
Oui, puis il y était plusieurs. Là. J'étais en train de perdre mon souffle. En fait, quand je ne pouvais plus respirer.
Étouffé, là, étouffé.
Je pensais mourir étouffé.
Oui. Explique-nous là.
Ils ont pesé très fort, ma face est rentrée totalement dans la neige, pénétrée, là. Je ne pouvais plus respirer.
Ouais, parce que là, vous êtes devant moi et je vois que vous avez tout un bleu, là, l'œil en bleu, là, ouais, en beurre et tout. Là,
c'est ça qui est arrivé. Là. C'est la grande pression pendant.
Vous avez une grande pression.
Plusieurs minutes.
Ouais. Contre
la neige, mais finalement,
Monsieur Cloutier, je
suis allé jusqu'au sol, ciment, là, jusqu'au sol. Là.
Ouais. Mais ce que je vois aussi, vous êtes, c'est juste un côté qui est abîmé, là. Ça veut dire que vous m'expliquez dans le temps comme quoi vous essayez de respirer ou qu'est-ce que c'est?
Je tournais la tête pour respirer de l'air. Puis en plus, il criait après moi, mais j'entendais pas beaucoup, puisque mes oreilles étaient pleines de neige.
Alors, si j'ai bien compris, M. Cloutier, ça veut dire qu'il essaye de vous craser le visage face au sol. Alors, au moment où il y avait de la neige, et vous essayez, tout ce que vous essayez de faire, c'est de tourner le visage pour prendre un peu d'air, une bouffée d'air, c'est ça, pour respirer.
C'est ça, mais je suis en train de paniquer parce que là, j'avais peur de mourir.
Oui. Mais est-ce qu'à ce moment, il y avait juste un seul policier sur vous ou il y avait plusieurs policiers?
D'après ma voisine et tout ça, parce que moi, j'avais déjà mis mon visage à terre quand il y avait un policier.
Oui.
Il était au moins 6, de 6 à 8.
Sur vous?
Oui.
Oui.
Puis ils tenaient toutes mes jambes et ils m'ont déceinturé, déculotté. Ils ont brisé ma montre. Et puis ils m'ont fait une prise de pouce pour casser. Ils m'ont fait une menace.
Mais votre main est dans...
que si je n'y arrivais pas à mettre les menottes, ils allaient casser mon pouce. Mais je leur disais, j'ai mal au bras... J'ai mal aux épaules. J'arrivais du gym, vous savez, comme il y a 2 jours avant, j'étais allé au gymnase.
Oui.
Et j'étais endolori. J'avais de la difficulté à m'étirer totalement. Mais là, c'était pas de ma faute. Là, je faisais pas par esprit. Là.
Oui. Mais là, le message passe pas du tout. Là.
Non, ils ont mis beaucoup, 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 beaucoup de force.
Oui. Mais là, je vois votre bras.
Il y avait des gens de chaque côté puis, qui forçaient vraiment beaucoup. Mes épaules sont très endolories maintenant.
Je vois. Alors, à part l'œil qui, visiblement, il est complètement abîmé, autour de l'œil, pardon, et le bras aussi. Qu'est-ce que vous avez dans le bras? Là? Je vois votre bras, il est complètement...
J'ai le papier... J'ai le papier du médecin qui parle d'une conclusion, au visage, au poignet, au pouce et aux épaules.
Oui. Alors vous avez des blessures partout, finalement.
Ben, pour mettre les... il aurait dû mettre les menottes à l'avant. Pour moi, ça aurait été plus facile.
Oui.
Ils ont mis 2 paires de menottes, ils n'ont pas mis juste une.
Oui.
Et les menottes étaient tellement profondes,
votre bras, il est enflé, là, complètement, la main est enflée. Là,
oui, puis ça allait déjà enflé beaucoup, ça fait quand même 4 jours. Là.
Oui,
c'était beaucoup plus enflé que ça, je vous jure.
Oh my God, oui.
Puis ça l'a coupé, en fin de compte, les menottes étaient en train de couper le sang dans mes poignets, mais aussi ça l'a ouvert...
je vois une ouverture, oui.
La peau, là, ça saignait beaucoup, là.
Et ça, c'est pour vous, monsieur. Est-ce qu'on peut savoir, et après, une fois... c'est dur, hein? Maintenant, M. Cloutier, Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit qu'ils ont enlevé votre ceinture, ils vous ont enlevé votre...
Ils cherchaient pour les armes. Mais c'était fait de façon brutale, brutale et sauvage.
Oui.
Moi, je suis un citoyen. Même un criminel doit être traité avec...
Le minimum,
avec avec respect, avec tolérance.
Oui.
Pas faire... Surtout quand la personne est déjà à terre, elle a déjà... Il me semble qu'on ne met pas une force...
excessive
pour vous faire du mal.
Pour vous, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Finalement, ils vous ont demandé d'être par terre, c'était par terre, vous levez les bras, vous avez répondu à tout ce qu'ils veulent, c'est ça? Et vous voyez que
tout ça... pour répondre à leur demande. Puis, de toute façon, avec un arme dans le visage, monsieur... Là,
vous ne pouvez rien faire, oui, je comprends.
Ben, j'avais pas le goût de...
Oui. Non, mais pour vous...
obéir, je voulais obéir.
Monsieur Poutine, vous êtes en train de le dire que cette force est trop excessive. C'est ça que vous comprenez, trop excessive. Avec toutes ces blessures-là, on va comprendre plus tard aussi que vous avez un arrêt de travail, que vous ne bougez pas, vous êtes traumatisé. Tout ça, pour finir, les policiers vont vous dire, monsieur, excusez-nous, sont trompés.
Oui, je suis allé hier pour chercher la plainte. Là, puis,
la plainte pour envoyer une plainte à la déontologie policière.
La personne est venue s'excuser devant moi et tout ça, puis...
Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Parce que les gens qui vous écoutent maintenant...
C'est facile de dire je m'excuse.
Ouais.
C'est comme si je vais tuer une personne, puis après ça je vais dire ben non, je m'excuse.
Non, M. Cloutier, est-ce que vous voulez voulez-vous expliquer aux gens là qui vous écoutent ce matin? Après ça, ils se sont rendus compte comme quoi il y avait un appel, un autre appel, pour comme quoi il y a quelqu'un qui est
tenté de... C'est ce qu'ils m'ont dit par la suite.
Ils vous ont dit quoi, monsieur?
C'est qu'une vieille dame qui a fait un appel parce qu'il y avait une personne qui a fait une introduction.
Ouais.
Et ils m'ont dit que...
Dans le quartier, là.
J'étais la seule personne, peut-être, là, alentour de cette maison-là, mais c'était chez nous, sur mon terrain.
Donc vous arrivez à votre travail.
Puis ils ont dit que la description... me ressemblait.
Correspond,
mais en fait, c'est que la description que la madame avait faite, c'était un jeune homme qui avait dans la vingtaine les cheveux totalement courts.
Ouais.
Moi, j'ai quand même beaucoup de cheveux, comme vous pouvez voir. J'ai pas les cheveux très longs, mais j'ai pas les cheveux, mettons, comme une brosse. Là.
Ouais.
Et puis, j'ai pas 20 ans, j'ai 51.
Ouais.
J'arrive de travailler.
Ouais.
Puis j'avais des cartes, là. J'avais des cartes d'accès à Hydro-Québec.
Ouais.
J'avais plein de documents. C'était évident que j'avais des bottes de travail là, spécialisées.
C'était pas ta journée, là, si on peut dire.
C'était pas ma journée, puis il me semble qu'ils ont pas fait attention à faire un arrêt d'une façon convenable et respectueuse envers le citoyen.
Je comprends. Tout ce que je vois, c'est cette force était tellement excessive qu'ils ont pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Dans une seconde, on va faire une pause et on revient avec la fin de l'histoire, OK?
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice. Et c'était le témoignage de Monsieur Denis Cloutier, inspecteur à Hydro-Québec. Vous avez entendu la première partie, donc on va juste faire une pause musicale, comme je viens de le signaler. On va faire une pause musicale et on va revenir avec la deuxième partie, toujours avec la même victime.
Adushi my Ghana, oh my yeah, corruption. Africa my, my yeah, corruption. Adushi my Ghana, oh my yeah, corruption. My Ghana, oh my yeah, corruption. Africa, my my yeah, corruption. I wish my Ghana, oh my yeah, corruption.
Alors voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous savez très bien, donc, dénoncer l'abus de l'autorité est un devoir de chacun de nous. C'est le seul pouvoir d'ailleurs même que nous avons entre les mains. Et dénoncer l'abus de l'autorité devient notre responsabilité. Alors je vous laisserai aussi avec la deuxième partie de ce témoignage, de cette victime, Monsieur Denis Cloutier, inspecteur à Hydro-Québec. Vous allez comprendre à quel point le monsieur était agressé et à quel point il se sentait vraiment vulnérable. Alors je vous laisse et je vous invite à rester à l'écoute pour suivre la seconde partie de ce témoignage.
Alors, rebonjour monsieur Cloutier. Vous dites que une fois vous étiez
Par terre,
et vous avez la face
dans la neige, là,
dans la neige complètement. Vous essayez quand même de prendre un peu de retourner, si vous voulez, tourner votre visage pour prendre de bouffer d'air un petit peu pour respirer. Mais les policiers qui sont sur vous là, ils vous empêchent là. C'est-à-dire que vous avez risqué de mourir. J'ai bien compris.
Moi, j'ai eu peur d'être accusé totalement.
Hein? Oui, vous étiez étouffé complètement.
Je vais vous dire franchement là.
Ouais.
Ça, c'est très important.
Ouais.
À un moment donné, là, je manquais tellement d'air là, que j'ai dit, je vais mourir.
Oh my God.
Je suis en train de mourir.
Ouais.
Et puis j'ai accepté. À un moment donné, là, j'ai dit OK,
abandonné, là.
J'ai abandonné.
Ouais.
Puis là, finalement, ils ont fini de me noter. Et puis là, ils m'ont relevé la tête un peu. J'ai pu respirer pour la première fois de l'air.
Un peu d'air, oui.
Assez d'air pour pouvoir... Puis là, mais je pensais vraiment totalement mourir. Là. Pourquoi autant de force que ça?
Ah, j'ai compris.
Même si j'avais été un criminel, il ne faudrait jamais faire ça à personne.
Oui, exactement.
Jamais, jamais. Ouais. Puis en plus, monsieur, ils ont enlevé... J'ai jamais compris. Ils ont enlevé ma ceinture de mon pantalon.
Oui.
Ils ont enlevé ma sacoche de taille avec mon portefeuille, mon argent et tout ça. Et puis, éventuellement, descendre mon pantalon.
Ils vous ont descendu mon pantalon. Pourquoi?
Une partie. Hein, parce que mon pantalon, je voudrais dire, j'ai besoin d'une ceinture car il est un petit peu.
Mais ils ont quand même
descendu. C'est un pantalon de travail. Ouais. Ils ont descendu dans la neige. Donc, ma bedaine dans la neige, mon chandail totalement levé. Pour moi, j'avais pas une arme. Mais là.
Mais une arme, ils peuvent toucher avec la main, ils peuvent savoir si vous avez quelque chose. Là.
Puis on avait déjà fait ça au début. Au début, ils avaient déjà regardé, ils n'avaient pas une arme, ils n'avaient rien trouvé. Puis ils l'ont refait quand j'avais les menottes encore une autre fois.
Ouais. Et descendre, mais est-ce que je ne comprends pas, M. Cloutier, descendre vos pantalons, là, chercher des armes, là.
Oui.
C'est quoi ça? C'est...
Non, mais j'ai jamais compris. Ouais, j'ai jamais compris parce que j'ai jamais porté d'armes.
Ouais.
J'ai jamais eu d'armes. Moi, j'ai pas d'armes ici à la maison non plus.
Revenir maintenant, je sais que ça a été très, très douloureux pour vous. Je sais que ça a été trop. Il n'y a pas de mots pour mettre cette intervention qui est trop injuste. Mais une fois qu'ils vous ont amené, ils ont soulevé, puis ils vous ont amené à la voiture. Ou
par la suite, ils m'ont soulevé. Il y avait beaucoup de neige ici. Là.
Ils ont conduit à la voiture.
À la voiture, le visage sur le hood encore.
Sur le capot aussi.
De la avec deux paires de menottes en arrière. Ouais. Ils ont mis deux paires de menottes. Ouais. Et puis là, la face encore contre le hood. Puis ils ne voulaient pas que je monte la face. Je ne pouvais pas les regarder. Ouais. J'étais comme traité comme un esclave, si vous voulez. Là. Ouais. En tout cas, moi, je me suis senti très maltraité.
Ouais, on ne peut pas traiter pire que ça.
Pas d'une façon équitable, comme on traiterait un bon citoyen. Ouais. Peut-être que le citoyen n'est pas coupable. Peut-être qu'il n'a pas commis aucun méfait.
Mais même s'il avait commis... Il
mériterait plus de délicatesse.
Non, c'est pas de délicatesse. Cette force-là, elle est inutile. C'est ce que vous comprenez.
Il faut inutile, comprendre. Elle est inutile. Je suis d'accord.
La force-là, c'est une force.
Parce que je suis jamais débattu. Jamais je me suis débattu. Ouais. Jamais j'ai résisté.
Oui, voilà.
La seule affaire, c'est que j'ai de la difficulté, moi, à mettre mes mains derrière.
Ouais. Et vous avez essayé
de. Et pour cette raison, ils ont mis une force sur eux-mêmes. Ouais. J'ai expliqué que j'avais mal aux épaules, mal aux bras déjà. Là.
Monsieur Cloutier, une fois vous étiez sur le capot, je sais pas combien de temps sur le.
Ben, ils me criaient très fort toujours, ils m'ont écarté les pieds encore, puis je ne comprends pas pourquoi écarter tant les pieds. Ils avaient déjà fouillé deux fois, donc c'était la troisième fois. Mais pourquoi autant fouiller, puis une personne qui a des menottes derrière le dos, je veux dire.
Et pour finir, ils ont mis dans la voiture, à l'intérieur de la voiture?
Par la suite... Finalement, j'avais froid aux mains, j'avais froid au visage, j'avais de la neige partout dans le corps, dans les pantalons. J'étais mouillé à partir du haut, de la taille, aller jusqu'au mollet, là, parce que j'étais longtemps...
Ça a duré combien de temps, là, cette intervention sur la neige?
À mon avis, moi, je pensais que ça avait duré une vingtaine de minutes, là, tout ça. Là. Mais les policiers m'avaient dit que ça avait duré juste 10 minutes, mais moi, c'était interminable. Là.
C'est pour vous, c'était plus que ça.
C'était long.
Mais je veux savoir, une fois que vous êtes rentré dans la voiture, pour faire un petit peu...
J'ai demandé qu'ils desserrent les menottes, ils n'ont jamais voulu.
Ils vont jamais le faire, là, c'est sûr.
Ça l'a coupé à l'intérieur de mon poignet. Les menottes étaient tellement...
La peau était coupée complètement, là.
Oui, mais ça m'a coupé. Ça m'a coupé mon poignet. C'était beaucoup trop serré.
Tout,
C'était avec violence incroyable.
Je veux savoir, ce qui est un peu très, très remarquable, c'est qu'un de vos voisins, il sort, il va aller voir les policiers, il va dire, écoutez là, ça c'est mon voisin, là. Ouais. C'est ça?
Puis il habite au condo en haut.
Et qu'est-ce qu'il a dit aux policiers, votre voisin?
Il a dit, c'est pas un criminel, il arrive de travailler, c'est son corps de travail, il est demeure en haut.
Il connaissait un petit peu vos horaires, là?
Oui, il sait que je travaille une semaine de jour et une semaine de soir. De 3h30 à minuit.
Alors, à partir de ce témoignage-là, les choses ont changé un petit peu?
Ben, en fait, quand... Pas vraiment tout de suite. J'attendais qu'ils me laissent relâcher, mais ça a pris encore un autre 15-20 minutes.
Ils ont fait ça.
J'étais en arrière, en mauvaise position. Je ne pouvais pas m'asseoir correctement. Ouais. Il manquait beaucoup de place pour mes pieds.
Ouais, il n'y avait pas d'espace,
Il n'y avait pas d'espace du tout. Puis, J'avais froid, là. Je crevais la tête, là. En plus, je venais de vivre.
Vous me dites que.
Le moment avec le gun et tout ça, mon cœur battait à 100 000 à l'heure.
Alors, vous m'avez dit qu'ils sont allés vérifier, on sait, les traces.
C'est ce qu'ils m'ont dit par.
Par la suite.
Par la suite. Qu'ils allaient vérifier des traces et tout ça, il n'y avait rien qui concordait. Après, ils ont rappelé la madame pour savoir la description, puis ont vu que la description ne fitait pas du tout. Elle parlait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Moi, j'en ai 51. Elle parlait d'une personne qui était totalement les cheveux coupés.
C'est pas la même description.
Chauve. C'est pas la même description. Il me semble qu'il aurait dû vérifier ça avant aussi.
Exactement. Là. Mais vous avez, comme vous étiez dans la voiture, vous avez quand même demandé aux policiers, vous m'avez dit.
De vérifier mon portefeuille.
Vérifier mon portefeuille.
Que c'était mon adresse et mon condo. Et
vous avez, dans mes papiers que vous avez devant vous, c'est l'adresse, j'habite ici. C'est ça que vous avez dit?
Puis il y avait mon téléphone aussi.
Est-ce qu'ils l'ont vérifié sur le coup, là?
Non.
Pas du tout.
Jamais.
Il fallait que le voisin descende pour dire, écoutez, là, c'est mon voisin, là.
Oui. Parce que je pense qu'il m'a amené au poste.
Sinon, ils ont voulu vous amener au poste.
Ben, je pense.
Oui. Alors, après ça, ce qu'ils ont fait, les policiers, les braves policiers, ils ont enlevé les.
Les braves.
Oui, mais c'est ça ce que je les appelle, moi.
Il n'y avait rien de brave, là.
C'est ça ce que je les appelle, moi.
Non, je m'excuse.
Moi, je les appelle les braves, les policiers, là. Les braves policiers.
C'était pas très brave, monsieur, à se mettre 10 contre une personne.
C'est ridicule.
Moi,
pour nous, vous savez, je dis brave parce que pour moi, c'est les plus lâches qui peuvent exister. Il faut comprendre ça. Alors, je veux savoir juste une chose. Alors, une fois, ils vont, après ça, après le témoignage, ils ont enlevé les menottes et puis ils vont dire, vous pouvez rentrer chez vous, c'est ça?
Oui. Puis, j'avais très froid aux mains, je tremblais. Puis, bon, j'étais dehors, pas au chaud. Puis là, finalement, il y a une personne...
Mais est-ce qu'ils vous ont conduit à l'hôpital, au moins?
Il m'a donné son nom. Là, j'ai dit, je peux-tu avoir un numéro d'événement? Je peux-tu avoir une carte? Il y avait plein de policiers. Il n'y avait personne qui me donnait d'informations. Okay. Il y a finalement un policier, lui, qui m'avait mis le gun au visage.
Il s'est rendu compte de sa gaffe, là. Oui.
Puis ce policier-là, je l'ai rencontré quand même quelques jours plus tard pour aller voir, puis... Il m'a dit que lui, il était quand même du côté droit. Puis j'ai dit, t'étais-tu du côté gauche? Parce que là, mon épaule, mon pouce brisé avec la prise pour mettre les menottes, c'était inhumain, ça, là. Il m'a dit, j'étais pas de ce côté-là, c'était un autre. Mais je sais pas.
Il a dit que c'était pas lui.
C'était pas lui.
Ah, c'est bon. Maintenant, vous étiez à l'hôpital. Est-ce que vous ont conduit après, vous ont conduit à l'hôpital ou vous êtes allé vous-même? C'est vous-même qui êtes à l'hôpital? Ils vous ont laissé, ils sont partis, ça? Et vous êtes à l'hôpital. Alors, vous arrivez à l'hôpital, donc...
Ben, je suis rentré voir mon voisin et le remercier pour vraiment...
Avoir intervenu.
Être sorti de son lit, puis...
Descendre,
s'habiller, tout ça, prendre tout le temps pour aller voir les policiers. Lui, il était brave. Lui, il était courageux, parce qu'il y a plein de... Parce qu'il y a plusieurs personnes... Faire face à la police, quelquefois, c'est épeurant. Puis leur dire, regarde, c'est un bon citoyen, qu'est-ce que vous faites,
ces amis? Vous trompez, là, vous faisiez...
Ben oui, vous vous trompez.
Alors...
Puis par la suite, le voisin m'a dit que j'étais très...
Le visage était enflé, là.
Oui. Puis là, je suis monté chez moi, je suis allé voir au miroir. Après ça, je suis allé le voir, puis il a pris des photos de mon...
Il a pris des photos de visage.
Mon œil était très enflé. J'avais une bulle de sang. Je ne pensais même pas que c'était possible à un corps humain de devenir aussi enflé que ça. J'ai dit, si je reste comme ça toute ma vie, je vais être défiguré.
Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les policiers, en aucun moment, ils ont dit, on va vous conduire à l'hôpital. Pourquoi, pourtant, vous étiez blessé, ils étaient vraiment sérieusement blessé. Ils ne vous ont pas demandé d'aller à l'hôpital, de vous conduire à l'hôpital.
Je me souviens pas là, comme tel, là, parce que j'étais nerveux et tout ça. Là, il aurait dû le faire systématiquement.
Parce que vous étiez comment
blessé. C'était une bonne fois, il aurait dû le faire. Parce qu'il voyait bien que je saignais du poignet. Il voyait bien
que mon œil était tout.
Mais d'après moi...
Ils sont partis comme ça.
Il a peut-être étouffé l'affaire.
Alors, vous étiez allé à l'hôpital, et voilà. Et vous allez, quand vous êtes sorti de l'hôpital, vous avez vérifié pour payer le taxi, vous êtes retourné en taxi.
Oui, bien là, c'est pour la première fois, je suis allé à l'intérieur où était ma réception de mon argent.
Oui.
Puis je me rends compte, merde.
Il manquait de l'argent.
Il manque beaucoup d'argent. Il en restait quand même un peu. Il restait peut-être...
Ça veut dire une partie de votre argent?
80 $, 100 $. Mais en vérité, j'en avais plus de 400. Là.
C'est bizarre.
Il manquait 200 quelques dollars, 240 $.
Et ça, c'est vous êtes certain qu'il manquait de l'argent de votre
argent? Ah, ben ça, je vous jure.
À 100%.
La journée d'avant, je n'avais pas 300 $. Dans mon portefeuille, j'en avais peut-être une centaine. Ouais. Peut-être 120, 130. Et puis... J'avais mis de l'argent pour pouvoir envoyer ma compagne qui est
On n'a pas besoin de savoir ça. Tu sais qu'il manquait d'argent. Est-ce que vous êtes allé réclamer ça à la police comme quoi, écoutez, l'intervention, non, des policiers qu'ils ont pris.
Le sergent le lendemain a appelé, puis je lui ai expliqué que.
Il manquait de l'argent.
Il m'a dit ça, c'était une accusation grave. Mais j'ai dit, monsieur, c'est la vérité.
C'est la vérité.
Moi, je suis mal à l'aise de vous dire ça. Oui. Je pensais jamais que ce serait possible.
My God.
Puis comment c'est possible que les policiers fassent ça, qu'eux font respecter la loi, c'est ignoble.
C'est vraiment...
Mais là, c'est peut-être juste une personne, par exemple, sur 10 ou...
On ne sait pas. Mais une chose certaine, c'est qu'il vous manquez d'argent. Il y a quelqu'un de des policiers qui sont arrivés à 100% qui a...
Ça, je vous jure.
Quand il a ouvert votre sacoche, parce que votre sacoche, vous ne l'avez pas, ils ont pris votre sacoche, ils sont partis avec votre sacoche.
Non, ils l'ont eu pendant une trentaine de minutes, quarantaine de minutes. Ouais. Même que moi, j'étais derrière, barré avec les menottes. Et puis finalement, j'ai vu la madame avec mon téléphone, ma sacoche et toutes mes affaires qui jouaient dans mes papiers, sans aucun...
Mais vous en retournez...
Sans demander permission ou rien de ça.
Mais vous en... Écoutez, là, ils ont descendu, baissé les pantalons.
C'est comme j'avais plus le droit, moi. Moi, je me suis senti là, un citoyen sans aucun droit.
Là, c'est sûr. Et vous ont donné une enveloppe, de toute façon, et dans l'enveloppe, vous cherchez...
Il n'y avait rien dans l'enveloppe. Ils ont mis tout sur l'enveloppe, ils avaient pété ma montre. Ouais. J'ai demandé, allez-vous faire réparer ma montre? Ils ont dit non. C'est une femme qui a répondu, elle a dit non, je le ferai réparer, toi.
Okay.
Mais j'ai dit, ça manque de délicatesse et de cœur. On dit pas ça à une personne.
Alors,
il venait de réaliser qu'il s'était trompé, puis il parle comme si j'étais un
animal. Alors, M. Cloutier, juste avant de finir votre intervention.
Il y a des animaux qui sont mieux traités que j'ai été traité.
Monsieur Cloutier, juste avant de finir. Ce témoignage, j'aimerais bien juste signaler, donc il s'agit du poste 31 qui est situé au parc Jarry-Saint-Laurent, et parmi les policiers qui ont mené cette intervention-là, j'ai quelques matricules ici, 62-19, 62-17 et 57-50 et 57-86. Alors je répète les matricules, parmi les 12 policiers qui étaient sur le lieu, on a matricule 62-19, matricule 62-17, matricule 57-50 et matricule 57-86. Alors, est-ce que vous avez... quel est le souvenir que vous gardez maintenant de cette intervention de policière, M. Cloutier, pour finir?
Mais comme j'ai dit au sergent qui m'a rappelé le lendemain, et puis le sergent au téléphone, je voyais que c'était une personne plus éduquée, puis il avait plus de délicatesse là, avec les autres. Il était très gentil. Mais il était trop tard.
Il s'est fait comment, ce sergent-là?
C'était le sergent...
Vous avez pas le nom?
Oui, Lavallée.
Le sergent Lavallée, du poste 31.
Du poste 31.
Alors lui, il vous a répondu très bien, correctement.
Il était correct. Ouais. Il a dit qu'il ferait faire une enquête sur l'argent qui est disparu.
Qui manquait.
Regardez, j'ai un bon salaire, là. S'il n'y avait pas manqué d'argent, j'aurais jamais déclaré des choses comme ça.
Ouais.
C'est ce que je lui ai expliqué, d'ailleurs.
Ouais.
Puis je lui ai expliqué que la force était...
Tellement excessive, oui.
Ah oui.
C'est inutile, vraiment inutile.
C'est comme, je ne sais pas moi, attaquer un enfant de 5 ans avec un tank ou un F-16.
C'est le sentiment que vous avez.
C'est sans bon sens.
Ouais.
C'est sans bon sens. C'est pas nécessaire d'être autant de personnes, de mettre autant de force, parce que chacun mettait beaucoup de force sur mon dos, mes fesses, mes jambes, pour mettre ces menottes-là, puis mes bras avaient de la difficulté à rejoindre.
Ouais.
Il me semble qu'il doit avoir d'autres... Il me semble que l'enseignement... Quand enseigne aux policiers, il doit y avoir des gens qui ne sont pas capables de rejoindre le bras derrière.
Mais il faut comprendre,
il doit avoir d'autres façons de le faire.
Il faut comprendre, M. Gletti, vous étiez chanceux de sortir au moins, parce que vous avez pu perdre et laisser votre peau. Hein. C'est ça ce qu'il faut comprendre.
Moi, je vais y mourir à fusiller. Ça, c'est
il y a des gens, malheureusement, qui étaient dans votre place, mais ils sont malheureusement...
Sur le coup, moi, je pensais que c'était un règlement de compte. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de justice. Je ne pensais pas qu'il y avait...
Dernier message, monsieur, pour les gens qui vous écoutent ce matin.
Je dirais, il faut faire attention, je pense, de se tenir loin de où il pourrait avoir l'arrestation policière.
Mais loin, c'est des gens qui sont venus vers vous, là. Vous ne pouvez pas être plus loin que vous étiez, là.
Essayez d'éviter de...
Mais comment éviter votre cas? Il dit qu'on ne peut pas éviter ces gens-là. C'est des accidents, c'est pas des accidents, ça. C'est...
Je peux vous dire.
Vous n'avez rien à dire, c'est
ça. Pas de bon sens.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Je te remercie, M. Cloutier, pour votre témoignage.
Donc voilà, c'était le témoignage de M. Denis Clotier, inspecteur à Hydro-Québec, qui a été victime cette semaine-là d'une agression de la part de l'autorité policière. Et vous avez bien compris que, malheureusement, la question qu'on avait posée, est-ce qu'on peut éviter d'être devant l'abus de l'autorité ? Vous avez vu et vous avez bien entendu la preuve, comment c'est pas tout à fait possible. Alors, pour le moment, on va faire juste on va passer à une pause musicale et on va directement, probablement, qu'on va essayer de rentrer en contact avec la victime pour compléter un petit peu l'intervention d'aujourd'hui. Voilà, donc, rebonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Maintenant, j'ai sur la ligne la victime en question, monsieur Denis Clotier. Bonjour, monsieur Clotier.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et j'aimerais juste qu'on vous avez peut-être entendu il y a plein de citoyens qui vous ont écouté, ils ont suivi aussi votre témoignage et puis la plupart, j'imagine qu'ils étaient choqués par ce qu'ils ont entendu. Et peut-être la première question que j'aimerais bien pour compléter notre intervention aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez après cette intervention, cette agression de l'autorité?
Ben, c'est surtout que je me dis, quand on est chez nous, on devrait être en sécurité.
Quand vous dites chez nous...
Et puis, dans ce cas-là ici, je me dis, même chez nous, à notre propre demeure, à l'intérieur de son terrain, à l'intérieur des clôtures, chez nous, en sortant les poubelles, c'est pas sûr qu'on est en sécurité, donc c'est pas sécurisant.
Oui. Vous voyez ça comme aussi grave, c'est ça que je suis en train de dire à tout le monde?
C'est ça. Puis, je dois rajouter, en fait, j'ai regardé quelques fois, aux États-Unis, une façon de procéder qui était plus brutale qu'au Canada, et avec moins de respect envers les citoyens. Mmh. Et puis, moi, ce que j'ai vécu, je dois dire,
on
est presque à l'âge...
on a compris, là.
Les années 70, les années 60, où c'est que c'est à coup de matraque sur les gens, puis c'est ce qu'on a vu aussi, mettons, pour les manifestations avec des étudiants qui étaient plusieurs reprises, certains d'entre eux étaient non-violents.
Vous êtes en train de nous dire comme quoi cette situation-là ne devra pas se passer ici au Québec, c'est ça?
Ben, je me dis, on est presque comme... comme aux États-Unis ou dans certains pays qui sont moins respectueux envers leurs citoyens. Je trouve ça dommage parce qu'au Canada, avant, c'était un pays, au Québec, à Montréal, c'était des régions qui étaient comme parmi les meilleures dans le monde ou les plus sécuritaires et les plus respectueux envers leurs citoyens. Et moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ne l'est pas plus qu'ailleurs. Mmh. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance-là, en tout cas. Là.
Je comprends. Mais M. Cloutier, avant cet incident-là, est-ce que vous avez pu imaginer que vous auriez pu être victime comme ça de cette brutalité aussi grave?
Non, jamais. Même maintenant, là, je me dis, normalement, il doit y avoir une façon de procéder, d'aborder les gens avec respect, leur poser des questions, où demeurez-vous, avant de commencer. Okay.
Je comprends, parce que quelqu'un qui me disait, en écoutant votre histoire, vous savez qu'on envoie des chiens, des fois, les chiens ils sont dressés pour attaquer directement, mais heureusement, on envoie des êtres humains, justement, parce qu'ils ont une limite. Et cette limite-là, il faut la respecter. Et pour vous, dans votre cas, malheureusement, cette limite-là était complètement... elle n'était pas respectée, quoi.
Non, c'est évident que... Je vais poser des questions à des personnes qui sont professionnelles et tout ça, là. Ouais. Finalement, je vous dirais que la façon de procéder, c'est évident qu'on a, qu'on a monté le taux beaucoup trop agressivement par rapport à ce qui est arrivé. Parce que la personne qui a quand même essayé de faire une infraction, c'était uniquement une tentative. Donc, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de bruit de fenêtre. À ma connaissance, il n'y a rien eu de tel. Mais pourquoi... puis même s'il y avait eu un vol, c'est quand même pas un meurtre, là. Je veux dire, à mon avis, moi, je pensais qu'il y avait différents niveaux de dangerosité ou d'urgence d'une façon d'intervenir. À mon avis, ça valait pas
le coup. Mais Monsieur Cloutier, juste pour vous dire aussi, vous êtes chanceux d'être toujours en vie, hein, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur peau dans une telle intervention, hein.
Je dois vous dire, souvent j'ai entendu des histoires dans les journaux, dans la radio, des gens qui disaient innocents, puis la police disait comme une version qui était différente. Mm. Puis que puis dans mon cas, je vous le dis, je peux vous jurer, il n'y a eu aucune... j'ai obéi à chacune des choses qui m'ont dit de faire le mieux que je pouvais avec ma connaissance, puis ma capacité physique. Donc, je me suis mis à terre, les mains à terre, le visage à terre. J'étais très vulnérable. Mais à la fin, ils m'ont dit, t'as posé de la résistance. J'ai dit, comment?
C'est sûr, parce qu'il faut qu'ils trouvent une réponse à tout ça. Mais maintenant, je veux savoir, M. Cloutier, est-ce que parmi les gens qui sont intervenus, ces policiers-là, vous avez, à un moment donné, m'avez dit comme quoi c'était des jeunes, hein, c'était des policiers de jeune âge?
Oui, c'est entre 20 et 28, c'est en bas de 30 ans, à mon avis. Il y a une seule personne que j'ai vue plus âgée. Donc peut-être qu'il manque un peu d'expérience, peut-être le soir ou la nuit, puis peut-être que c'est des policiers qui ont besoin peut-être de plus de supervision, mais il devrait avoir des policiers un peu plus âgés pour superviser ces jeunes-là, à mon avis.
Oui. Maintenant, le poste 31, est-ce que vous avez reçu un appel du poste 31 à propos de votre argent qui manquait dans...
Non.
Jusqu'à présent?
Non, j'ai pas eu aucun appel en tant que tel. Oui. Il y a deux jours plus tard, quand même, quand j'ai rencontré le policier et qu'on a parlé plus doucement, là. Ce qu'il me dit par rapport à la résistance, c'est que mes bras avaient de la difficulté à aller derrière. Mais comme je lui ai dit, pourquoi avait pas mis les menottes en avant?
Parce que vous avez bien expliqué,
on n'est pas tous des yogiques, là, avec des capacités, là, très souples sur nos membres. Qu'est-ce que j'allais faire à un moment donné quand c'est pas possible? Faut arrêter de forcer, et puis on se met pas sur une personne, puis essayer de... Parce que là, les deux épaules, là, j'ai beaucoup de difficultés, là.
On a bien compris, ce n'est pas un non...
c'est un non-pouvoir. J'ai eu beaucoup trop de force. J'ai posé des questions dans ce sens-là. J'ai essayé de savoir. Puis là, finalement, il a avoué que, oui, c'est vrai, la seule chose qu'il avait eu de discuter avec moi, c'était de rejoindre les mains. Mais comme je l'ai dit, j'avais mal et tout ça. Là, j'ai essayé d'expliquer, mais j'avais pas beaucoup de possibilités de parler. Mmh. En plus, il manquait de souffle. Là.
Mmh,
à un moment donné, la figure dans la neige, totalement immergé par la neige. Tu peux pas commencer à jaser puis dire, hey, je me suis allé au gym il y a deux jours, puis là, je suis endolori sur mes muscles.
Mais monsieur,
c'est vraiment le monde en envers, là.
Monsieur Cloutier?
Oui.
Maintenant, vous m'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez eu des nouvelles à propos du le manque de votre argent? On peut le dire le mot là, le vol, parce que il manquait une fois que vous n'avez pas eu votre sacoche avec vous et vous avez repéré votre sacoche après. Vous avez constaté qu'il manquait de l'argent, tout simplement.
Le sergent Vallée me sur le coup, quand on s'est parlé, il m'a dit qu'il ferait une enquête là-dessus.
Okay.
Mais j'ai eu aucun retour d'appel depuis plusieurs jours, aucune information à ce propos.
Dernière question.
J'ai demandé, s'il vous plaît, monsieur, le sergent Vallée, est-ce que c'est possible de questionner la dame qui avait mon portefeuille dans la voiture quand elle s'est criée? Oui, il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a autant d'argent dans sa poche? C'était les environs de 400 quelques dollars, j'imagine.
Oui.
C'était, deux jours plus tôt, je venais juste de mettre 300 dollars dans ma poche et j'avais peut-être une centaine de dollars déjà. Mm. Fait que j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Je lui ai demandé de questionner la dame qui a cherché, qui cherchait des papiers, des choses comme ça. Dans ma sacoche de taille.
Ouais, monsieur Cloutier, juste une dernière question. Quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui? Je sais que parmi les démarches, vous avez essayé de rejoindre Claude Poirier. Est-ce qu'il vous a rappelé?
Non.
Il ne vous a pas rappelé?
Non, j'ai laissé un email. Ouais. D'ailleurs, vous étiez présent là, quand je l'ai
tout à
envoyé.
Fait, ouais.
Non,
je n'avais pas eu aucune
réponse. J'ai pas eu d'appel de ce côté-là. Ouais,
voilà.
Il y a la presse qui m'a appelé quand même. Il y a une dame de la presse, je pense que...
C'est bon. Monsieur Cloutier, je veux savoir maintenant votre dernière... Est-ce que vous avez un mot à dire aux citoyens que vous écoutez aujourd'hui? Est-ce que vous encouragez que les gens dénoncent une telle brutalité ou un abus de pouvoir comme tel?
Oui, s'il vous plaît, ayez du courage de dénoncer ces choses-là. Oui. Parce que dernièrement, je disais quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. C'était sur Internet. Si on se lève pas contre, les gens qui sont les minorités,
oui.
soit les gens qui sont de couleur, ou soit les gens qui sont de différentes religions.
Vous êtes un Québécois d'origine pure, là.
Si nous, on n'est pas interpellés là-dedans, souvent, on va dire, c'est pas grave, c'est pas nous. Mais je dirais, aussitôt que l'injustice, qu'importe qui ça peut être.
Merci, M. Cloutier, pour votre témoignage. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, on vient à la fin de notre émission. Donc j'aimerais bien juste remercier M. Cloutier pour son témoignage. Et je dirais bien à Radio Centre-Ville 102.3 FM, merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Alors à moi, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine avec un autre épisode. À la prochaine, au revoir.
Une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, hagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville nous met